Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur l'onde curieuse, votre rendez-vous d'information. Janvier est là, les repas de fête sont digérés, les potagers sont au repos. Alors, qu'est-ce qu'on va bien pouvoir manger en attendant le printemps ? Eh bien, à Fréquence 7, on a trouvé des moyens efficaces pour se régaler au cœur de l'hiver.
Et oui, bonjour Sophie, bonjour à toutes et à tous. On a découvert, donc loin des supermarchés, on vous invite à découvrir deux nouvelles conserveries de notre terroir qui viennent chacune à leur manière nous offrir toute l'année de bons produits locaux. Il s'agit de deux entretiens où il sera question de convivialité, de bien manger, de bien vivre, de solidarité, en un mot, de respect pour notre alimentation et celles et ceux qui la font vivre.
Mais tout de suite, on passe à l'actualité.
Et les informations donc de base sur notre coin et ailleurs. La crise énergétique dans laquelle on est plongé pose la question de l'isolation des logements. Et à partir de ce début d'année 2023, il est interdit de louer un logement considéré comme une passoire thermique, c'est-à-dire qui consomme plus de 450 kWh par mètre carré.
Et passoire thermique, est-ce que ça représente beaucoup d'habitations en Sud-Ardèche ?
Eh bien, je suis allé voir une petite cartographie et les quatre communautés de communes de Basse-Ardèche, donc Aubenas, Les Gorges, Les Vences et Baume-Drobie, ça représente pas loin de 10 000 logements considérés comme des passoires thermiques, soit à peu près 28% du parc résidentiel. Alors, malgré un encouragement à la rénovation thermique qui date pas d'hier, ça fait plusieurs années qu'on en parle, qu'il y a des aides d'État, des crédits d'impôt, les propriétaires de logements rechignent, surtout que les plans d'isolation à 1 euro qui ont été en vigueur pendant 4 ans ont entraîné de nombreuses arnaques.
Il y a des recours pour les locataires ?
Eh bien, l'isolation est maintenant devenue un critère de décence pour les logements. C'est-à-dire que vous pouvez toujours interpeller le propriétaire ou les autorités pour signaler un logement non décent. Les locataires peuvent donc se rendre à la mairie et demander une expertise, tout en adressant un recommandé à leur propriétaire pour lui demander des travaux de mise en conformité.
Ouais, et je rappelle qu'en Basse-Ardèche, il y a le service public Réno-Futé qui est à la disposition pour tous, pour bénéficier justement d'une expertise gratuite. Et on avait fait une onde curieuse là-dessus. Sylvain, je ne sais pas si tu te souviens, c'était un petit peu avant Noël.
Oui, je m'en rappelle, bien sûr.
Ouais, c'était un petit peu avant Noël. Donc vous pouvez retrouver cette émission sur le site de Fréquence 7, l'onde curieuse.
Alors, dans le monde agricole, l'année 2023 va avoir un nouveau modèle d'assurance récolte en cas de sinistre climatique, tout ce qui est grêle, sécheresse, etc. Jusqu'ici, c'était une gestion par l'État. Après que la DDT évalue les sinistres et sur les différentes zones, les agriculteurs touchaient une indemnité en fonction de la surface touchée et de la zone concernée.
Et ils pouvaient souscrire en plus une assurance privée pour les dédommagements complémentaires.
Et oui, c'est ça. Et aujourd'hui, cette réforme de l'assurance récolte vient généraliser la privatisation du système d'assurance. Et ça rend obligatoire la souscription à une police d'assurance privée. Il y a trois catégories qui sont mises en place. Si moins de 20% de la récolte est perdue, il n'y a pas d'indemnité. De 20 à 50%, c'est l'assurance privée qui rembourse l'agriculteur. Et au-delà de 50%, l'État réassure la prise en charge.
Et c'est super, tout le monde est content de cette évolution ?
Eh ben, je suis allé demander à la Confédération Paysanne ce qu'ils en pensaient, et eux, ils déplorent en Ardèche, en tout cas, la mainmise du privé sur ce nouveau système. Surtout que la nouvelle politique agricole commune, qui est développée de 2023 à 2027, prévoit que l'État finance une partie des assurances privées. Alors, donc, on se retrouve avec un système d'assurance privée financé par l'État, qui, du coup, ne finance plus les conversions vers le bio et autres investissements d'avenir.
Ouais, surtout que le système mis en place n'a plus rien, donc, d'universel.
Eh ben oui, puisque ça concerne surtout les grandes cultures, un peu comme c'était le cas avant. Donc, c'est les cultures céréalières, la vigne, les prairies. La Confédération Paysanne note que l'apiculture ou le maraîchage diversifié restent les grands oubliés de ce système d'assurance.
La fin des emballages à usage unique dans les fast-food.
Et oui, on l'avait mentionné hier dans les brèves, cette mesure super écologiste entre enfin en vigueur. Les restaurants ont l'interdiction d'utiliser des emballages jetables pour tous les repas pris sur place.
Pris sur place, je souligne.
Ouais, ils seront remplacés par des récipients en plastique lavable, ce qui est bien, mais pas top.
Et donc, prix sur place, ça veut dire que la vente à emporter n'est pas concernée?
Eh ben non, la mesure vise à limiter les productions de déchets des fast-foods, mais ça ne touchera pas les ventes à emporter, ce qui est un peu dommage puisque chiffres de la vente à emporter a gagné toutes les habitudes de consommation depuis les confinements de 2020 et 2021.
Ouais, on rappelle que la France s'est fixée comme objectif de supprimer tous les emballages plastiques à usage unique d'ici 2040. Encore un effort.
Ouais, ça nous laisse le temps de voir venir 2040. Et puis en même temps, on rappelle qu'il y a une urgence puisque McDonald's, à eux seuls, produisent 115 tonnes de déchets par jour en France, soit 1 kilo par seconde.
On va rester dans la thématique du jour avec l'alimentation, mais on parle de complètement autre chose, puisqu'on a parlé un petit peu de l'agenda local. Demain, mercredi 4 janvier, de 9h à 14h30, au centre socio-culturel de Bonnat, le Palabre, un atelier cuisine pour les personnes diabétiques, prédiabétiques ou les accompagnants est organisé par l'association Agir contre le diabète. Les conditions, c'est être adhérent à l'association. Et il y a une participation de 10 euros qui est demandée. Les inscriptions se font au 06 84 05 75 14 le matin. Donc c'est mercredi 4 janvier de 9h à 14h30 au Palabre.
Alors en termes de nourriture intellectuelle, c'est tout aussi important. On vous propose d'entrer dans le monde et la pensée d'Anna Arendt avec le philosophe Michel Séguet. Il sera question d'autorité, de politique, de mensonges et de violence. Ce sont des thèmes chers à la pensée d'Anna Arendt. C'est un atelier de réflexion philosophique qui se passera à la médiathèque de Privas ce vendredi de 6h à 18h.
Ce vendredi 6 à 18h.
Ce vendredi 6 à 18h, tout à fait.
Ouais, le principe, vous êtes invité à réfléchir à partir d'extraits des œuvres d'Anna Arendt. Il y en a trois, Du mensonge à la violence, La crise de la culture et Eichmann à Jérusalem. Ces extraits vous seront fournis lors de votre inscription. Donc c'est organisé par l'Université populaire Centre-Ardèche, ça coûte 8 euros et c'est sur inscription sur le site de l'Université populaire.
Vendredi 6 janvier, ce vendredi à 18h à la médiathèque de Privas.
Dernière petite info, pourquoi ne pas participer au projet Il était une fois l'école? C'est un projet qui est mené par la commune de Pont-de-la-Baume et la Comcom Ardèche des Sources et Volcans. L'idée, c'est de réaliser une fresque sur l'école de Pont-de-la-Baume avec les élèves. Pour ce faire, la commune et la Comcom donc recherchent des photos, des témoignages, des anecdotes de vos temps à l'école. Donc vous avez jusqu'au 15 janvier pour déposer vos témoignages, vos photos, etc. dans les boîtes qui sont prévues à cet effet dans la commune. Il y en a devant l'école, à l'accueil périscolaire ou à la boulangerie Couder. Et vos documents, dont ils prendront bien soin, vous seront restitués après le projet.
Et c'est la fin de ces petites actualités du mardi. On continue en musique. I live high, oh my tin can up in the sky. All those people down below, oh that city that I long to know. Moving fast, what's their name? Where they going and from which hole they came? I'm no one but a face, just a stranger in a stranger place. Breathing out, breathing in. Sun came up, then it went down again. As I say, I am a visitor. I don't mind, oh my tin can up in the sky. All those people down below, oh they're just people that I long to show. That I'm fast, that I'm game, so much bigger than the hole I came. I'm not no one, not empty space, just a stranger in a strange, strange place. Don't mind. Ooh.
city that I long to know. Moving fast, what's their names? Where they going and from which hole they came?
D'entendre un morceau de Kevin Morby qui s'appelle Tin Can. Alors, tin can en anglais, ça veut dire boîte de conserve, en aluminium hein, par défaut, mais boîte de conserve. Et c'est ce qui me permet d'introduire le sujet de notre double reportage du jour. On est allé à la rencontre, Sophie et moi-même, de deux conserveries de notre territoire de Sud-Ardèche qui œuvrent de deux façons différentes.
Oui, alors moi je suis allée à Gros-Pierre à la rencontre d'un jeune chef passionné et engagé, Jérémy Tanfin, qui vient d'ouvrir une conserverie artisanale qui s'appelle le Bal de Bocal. Et vous allez l'entendre, pour lui, le goût, le local, c'est pas qu'une question de com'. Je pousse les portes de la conserverie et on commence par une petite visite.
Tu viens de rentrer dans ce qui sera bientôt le magasin. Donc l'idée est vraiment de ramener tous les produits qu'on utilise et qu'on transforme. Là, on va aménager avec des étagères tous nos produits qu'on travaille, aussi bien transformés que ceux qu'on achète, de façon à ce que les gens puissent avoir accès. À ces produits-là, on a l'avantage de travailler avec l'Ardèche de saison qui nous ramène vraiment les produits de toute l'Ardèche. C'est génial, quoi. C'est des camions qui tournent, qui prennent et qui redéposent ailleurs chez les gens qui veulent. On fera aussi, du coup, ici, il y aura un frigo en self-service. On fera des plats du jour dans des bocaux qui ne seront pas stérilisés, ceux-là, mais qu'on pourra emmener, manger où on veut, ou aussi bien goûter les charcuteries locales et les desserts. Là, on est vraiment encore dans la phase de production, donc on a une grande partie des recettes qui sont prêtes, mais pas suffisamment pour avoir un beau magasin. Donc là, on continue pour avoir un beau magasin au printemps. Ici, on a voulu vitrer la partie stérilisation pour expliquer aux gens ce qu'est la conserve. Là, on peut voir quand ça stérilise. C'est une grosse cocotte minute.
Ok, mais revenons à l'origine du projet. Pourquoi un jeune chef cuisinier se lance dans la conserve?
Alors la conserve, c'est assez spécial. Quand on est parti en Nouvelle-Zélande, après un service de cuisine, le chef nous dit bah, on arrête tout, on va faire des conserves. Bon, je comprenais pas pourquoi, et en fait, il faisait des plats cuisinés, tout ça, pour mettre en supermarché. Supermarché de Nouvelle-Zélande, ça équivaut à nos épiceries. Hein. Et j'ai trouvé ça génial. Là, on est dans une partie rurale, et de pouvoir faire ses conserves en hiver pour vendre tout au long de l'année aussi, et puis surtout d'avoir un produit qui se garde et qui est fait au moment de la saison. Parce que quand on voit, malheureusement, bah, tous les paysans ici produisent en, pas tous, mais une bonne partie en tout cas en quantité, et à fin de saison, bah, ils se retrouvent avec beaucoup de choses sur les bras. Je pense qu'il y a un partenariat et un équilibre qui peut être fait. Nous, on peut tout transformer, soit ils repartent avec, soit nous, ça nous permet aussi d'avoir des produits un peu moins chers et de plus accessibles dans la revente. Je pense que tout le monde peut y trouver son compte, et de nos jours, on parle de aussi bien d'énergie, mais d'économie, d'écologie, il faut vraiment faire ce circuit court et transformer et éviter de perdre au plus possible, quoi. On a beaucoup voyagé, on a fait un bon tour de France, et c'est vrai que c'est important, je pense, de consommer à chaque fois local, parce que c'est là où on vit, donc si on fait mourir les commerces des alentours, c'est pas logique. Et nous, en étant commerce de proximité, si on va faire travailler des producteurs qui sont à l'autre bout de la France ou encore pire du monde, on n'est pas dans la bonne logique, parce qu'on dit aux gens, vous venez pas chez nous, consommez local, et nous, on achète beaucoup plus loin. S'il faut faire vivre un moment ces alentours, c'est les gens qu'on rencontre, et puis y a un échange qui est plus fort.
Jérémy travaille donc avec les producteurs locaux parce que ça a du sens pour lui.
Pour le moment, je travaille avec un déchet de saison, mais les ventes, c'est à une demi-heure. L'idée, c'est vraiment, là, je fais mes essais de recettes. Quand elle est validée, on travaille directement avec eux, on prend en quantité. Quand ça les arrange aussi, ça qui peut être bien, c'est que si à un moment, il a un trop plein et qu'il ne peut pas spécialement le vendre, on peut caler une production, quoi. C'est aussi l'idée du circuit court, de consommer, en tout cas au plus proche, pour faire vivre tout le monde dans le coin. C'est pas spécialement une idée de faire du bio, parce que j'ai pas envie d'avoir le label spécialement. Mais c'est au plus proche, en tout cas, au moins qu'il soit raisonné, et ça, il y en a énormément qui le font, mais on n'en parle pas, on met pas de label dessus. Est-ce qu'il faut vraiment payer pour bien faire et le dire? Je sais pas si c'est...
Mais est-ce que le local, c'est pas un peu plus cher?
Bien sûr, on va pas se leurrer, hein, c'est un peu plus cher. Il faut expliquer, en fait, faut expliquer aux gens, faut expliquer pourquoi, et il faut surtout défendre, je pense, ce qu'on a envie de faire. À un moment, je me suis confronté là au prix des olives, par exemple, qui arrivent du Maroc trois fois, ou même des fois quatre fois moins cher. Alors c'est sûr que l'impact sur la conserve, ça permettrait d'avoir un petit tartinable beaucoup moins cher. Mais je me suis vite remis dans mes bottes et je me suis dit non, c'est pas ma logique, c'est pas ce que je cherche. Donc je suis parti sur des olives de France. C'est plus dur à trouver, c'est plus dur à faire, c'est plus cher. Mais c'est dans la logique qu'on cherche à avoir. Je crois en ce modèle en tout cas, donc j'y vais jusqu'au bout.
Et pour le consommateur, ça lui coûte combien?
Ça commence à partir de 4,50€. Et un plat cuisiné tourne plus autour des 10€. Voilà, l'impact vraiment sur le pot et l'autoclave, quoi, la stérilisation est quand même lourde. Le verre, avec les énergies, on va pas s'en cacher. C'est pour ça que je tiens vraiment à ma partie traiteur aussi, où quand on est en direct, on n'a pas spécialement envie de l'emmener quelque part. On peut prendre un plat et se le manger tout de suite, et sans avoir cet impact énergétique en plus. Ou...
La partie traiteur, c'est aussi pour Jérémy une oasis de créativité. Parce que quand on lui demande si sa fibre de chef s'y retrouve dans la conserve...
En faisant la conserve? Non. On va être franc, c'est complètement différent. La partie traiteur est là pour ça. On fait des mariages, on fait des baptêmes, on a un tournebroche, voilà, on a une plancha qui vient d'arriver, un bras zéro. C'est ce côté-là, quoi, vraiment, à emporter, où les gens demandent des plats plus cuisinés, même chef à domicile. Ça permet de se faire plaisir dans ma partie cuisine. Alors, je me fais énormément plaisir sur la partie conserve, puis ça reste dans ma logique, mais c'est pas du tout mon travail de cuisinier à la base.
Et pour cultiver le plaisir créatif, Jérémy continue d'inventer, d'imaginer de nouvelles recettes qui figureront peut-être à côté de la caillette au porc de plein air et du tartinable poivron chèvre.
On va développer une gamme plus atypique. On voulait commencer par les classiques parce que ça marque plus les gens avant qu'ils osent autre chose. Bon, poivron chèvre miel, on a la tomate cacahuète, donc je te disais quand il y a des mélanges, c'est des tomates bio de France, d'Ardèche même. Et la cacahuète, non, on n'en trouve pas, mais on voulait pas tomber que dans les classiques tomates basilic, tout ça. On fait des essais, après il faut savoir qu'il y a quand même un coup d'essais de toutes les recettes, bien sûr, elles repartent au labo et tout. Donc l'idée c'est d'avoir quand même une belle gamme au début, et elle viendra se perfectionner avec des nouveaux produits assez couramment, quoi. C'est vrai que je m'amuse sur les mariages à tester tout ça, du coup. Les gens aiment bien des tartinables avec des crudités et tout ça, et ça permet de faire des essais un peu fous, et de voir après aussi comment ça réagit dans l'autoclave.
Alors Jérémy, si on résume... En quoi la conserve, c'est un produit durable?
Elle est durable déjà dans le temps, parce que dessus c'est une DDM qui est appliquée, donc ça veut dire que c'est un produit de date de durabilité minimale. Donc ça veut dire que vous pouvez le consommer après, vous n'avez pas de risque sanitaire. La seule chose qui puisse bouger, c'est peut-être le goût, une altercation du goût, sur la qualité gustative, pas d'odeur ou tout ça. Et nous, on garde des échantillons de chaque, et à un moment, ça nous permet de savoir... jusqu'à quand on peut aller sur une DDM. Une grande partie en supermarché des DDM qui sont mises, c'est vraiment pour que vous jetiez, que vous rachetiez. Tout ce qui est produit gras un peu, un gras véhicule, et ça s'affine comme une bonne bouteille de vin, hein, en fait. Nous, on est sur des normes sanitaires où les produits ils peuvent résister, vous pouvez l'oublier dans un coffre, il n'y a aucun souci. Mais c'est vrai que le garder en cave, c'est quand même mieux. Ça travaille, ça s'améliore, et c'est un plaisir, quoi.
La conserve semble donc avoir de l'avenir. Et aujourd'hui, vous êtes nombreux en Ardèche?
Il y a quand même pas mal de conserveurs. Alors, il y a les bateleurs, ça, ils sont beaucoup basés sur tout ce qui est légumes et tout. Après, dans la même idée, il y a M. Marc Sandevoir, là. Et qui, en plus, est très gentil, quoi, très ouvert. Il m'a donné pas mal de conseils.
Et si je lui parle de la popoterie?
C'est une bonne idée, hein, je trouve. Ça. C'est vraiment un truc à faire.
Et d'ailleurs, elles l'ont fait, les filles de la popoterie. Merci Sophie pour cet entretien avec Jérémy Tanfin, du coup, qui dirige le bal de bocal. Pour ma part, je suis allé m'entretenir l'autre jour avec Svetlana Vermonet, qui est la cofondatrice avec Alice Bell de La Popoterie. Et La Popoterie, c'est à Aubenas, une nouvelle conserverie associative qui est en lutte ouverte contre le gaspillage alimentaire.
L'histoire est née là, courant de l'année 2022, suite à ma rencontre avec Alice Bell, qui avait cette même envie d'agir sur l'anti-gaspillage alimentaire. On est toutes les deux avec des petits revenus, avec en même temps ce sens de vouloir bien manger. Et on s'est dit, ben, si on travaillait à partir de glanage ? Alors le glanage, c'est un terme qui est ancien, hein, puisqu'on a un droit de glanage, où en fait, suite à une récolte, les gens peuvent venir derrière les machines et ramasser ce qui n'a pas été récolté.
Et le glanage, c'est une pratique encore courante aujourd'hui ?
Aujourd'hui, c'est très restreint le glanage parce que ça, y a plein de problématiques autour des producteurs, autour des produits phyto qu'ils peuvent utiliser. Donc, il y a besoin, quelque part, de un peu plus l'encadrer. Et donc, Alice et moi, de venir leur proposer de glaner, mais avec un cadre, où on fait même une convention avec eux. Ils sont protégés, on est protégés. Ça nous a facilité l'accès à des magnifiques produits.
Tous ces produits, vous les récupérez auprès des paysans et des agriculteurs du coin ?
Nous, on s'est donné avec Alice le challenge de faire maximum autour 20 km d'Aubenas. Ça nous permet d'être sur ce lien qu'on veut très proche avec les producteurs qui, au fur et à mesure, deviennent des amis, des vrais partenaires. Cette proximité, on la veut aussi parce qu'on réfléchit à travers cette popoterie qu'on monte à comment manger demain. Et c'est important de dimensionner à s'il n'y a plus d'essence, s'il y a des difficultés d'approvisionnement, etc. Donc comment relocaliser notre alimentation et faire qu'il y ait vraiment cette proximité entre le producteur, le consommateur, qu'on soit plus à aller chercher nos produits à des bornes et des bornes, voire des pays étrangers. Donc tout ça, on se le donne en mode expérimental, mais depuis qu'on a commencé, en avril 2022, donc c'est tout récent, on se rend compte que c'est faisable.
Récupérer localement et gratuitement les produits des champs, Svetlana, c'est bien pratique. Surtout que la popoterie ne cherche pas spécialement le profit, mais surtout le partage et la solidarité.
Cette année, on a récolté 3 tonnes de fruits et légumes, c'est génial. Mais qu'est-ce qu'on fait après avec tout ça ? On a repris l'activité d'Aurélia Etienne, qui s'appelait À Portée de Main, qui faisait du glanage depuis 7 ans sur le territoire, et elle nous a transmis son savoir. Elle avait des réseaux de distribution en magasin de producteurs et en AMAP, et on aurait pu reprendre directement ses débouchés. Avec Alice, on s'est dit, non, nous ce qu'on vient chercher, c'est vraiment l'humain. Comment rendre accessible cette alimentation de qualité, de proximité. Donc, on a décidé de se construire en forme associative et d'aller chercher un partenariat avec l'aide alimentaire. Ce qui veut dire qu'on ne se rémunère pas, mais la démarche nous permet de toucher les gens qu'on avait envie d'aller toucher, c'est-à-dire les bénéficiaires de l'aide alimentaire, qu'eux aussi, ils ont droit à manger des produits locaux et de qualité.
Et pour financer leur démarche solidaire, les popotières comptent aussi sur des clients gourmands comme vous et moi, soucieux de manger utile.
On a développé un autre canal de distribution qui est plutôt les gens qui ont envie de soutenir le fait qu'une partie de nos bocaux partent à l'aide alimentaire. Et ils ont des super bocaux.
D'ailleurs, ces bocaux, d'où viennent-ils ? Là encore, la popoterie trouve des solutions locales et écologiques.
Là-dessus aussi, on s'est donné l'expérience de fonctionner avec du réemploi parce que, toujours en s'appuyant sur les normes et la réglementation de sécurité alimentaire, on peut réutiliser les bocaux. Il faut juste changer les capsules. Donc, il y a quelques mois, on a fait un appel à dons de bocaux qui a fonctionné. On a collecté presque 1 000 000 de bocaux Le Parfait. C'est émouvant. Pour l'instant, les seuls bocaux qu'on a achetés, c'est pour nos échantillons, pour pouvoir mesurer un peu l'évolution de nos recettes dans le temps. Mais sinon, on veut vraiment fonctionner avec de la consigne. C'est juste un peu de bon sens aussi quand on voit la flambée des prix des matières premières et la difficulté d'impacter après dans son prix final toutes ces charges qui augmentent et qui ferait qu'on s'éloignerait de ce qu'on veut faire, rendre accessible une alimentation de qualité. Donc on cherche tous les leviers, les emballages en font partie. Et puis ça participe à cette idée de zéro déchet, entre guillemets.
Et vos recettes, donc, Svetlana, plutôt que la complexité, vous visez la simplicité.
C'est le mot que tu viens de dire, simple. En vrai, on veut vraiment garder notre ligne directrice qui est l'accès à une alimentation de qualité et locale. Et pour ça, on veut vraiment jouer le jeu de transformer à partir au maximum du glanage qu'on a. Donc bien évidemment, le sucre, le sel, ça se glane pas. Mais par contre, on rajoute quasi rien d'autre. C'est les produits au maximum dans leur jus. Et ça nous amène à réfléchir à des recettes innovantes où on réfléchit aussi à l'énergie qu'on met à transformer ces fruits et légumes.
Et c'est comme ça que vous avez mis au point une recette inattendue, le cuir de fruits.
On fait du cuir de fruits, du cuir de légumes, des produits secs. Donc c'est le fruit ou le légume qui est cuit, mixé en purée et mis à déshydrater. C'est tout simple, c'est juste savoureux parce qu'il n'y a rien d'autre que le fruit ou le légume. Et le séchage donne encore plus une qualité nutritive à ces aliments. Donc voilà, on réfléchit à ce type de recette parce qu'on ne peut pas oublier qu'on est dans une augmentation des coûts, que ce soit en termes des emballages, que ce soit en termes d'énergie. Et on ne pourrait pas, à notre sens, Alice et moi, être cohérente si... on faisait des bocaux avec une surconsommation d'énergie. Donc, autant garder en ligne de mire comment manger demain et essayer de trouver, tout en étant dans les normes d'aujourd'hui, les moyens de faire avec moins d'énergie, moins de surplus, simple et local.
Et pour économiser ressources et énergie, la popoterie s'inscrit dans un collectif plus grand qui s'installe bientôt à Aubenas, la Ringarderie.
La Ringarderie, c'est donc un tiers-lieu qui est en train de se construire, qui est dédié justement au réemploi, à l'entraide et à la création. Et le fait de se mutualiser les outils, le lieu, les charges, etc., mais aussi l'état d'esprit, ça permet de garder notre envie d'action humaine, d'innovation sociale qu'on veut mettre dans la conserverie. Puisque les autres activités qui vont se trouver sur ce lieu ont accepté de nous propulser, parce que créer un laboratoire dans les normes d'hygiène et de sécurité alimentaire, ça a quand même un coût. Et du coup, grâce à ça, la conserverie, elle devrait voir le jour vraiment dans une forme labo de transfo, autoclave, pour parler outils, d'ici le printemps 2023. Nous, ça nous touche beaucoup avec Alice parce qu'on part de rien. Et en quelques mois, on a un réseau de producteurs qui sont vraiment des partenaires. On a l'aide alimentaire qui nous soutient. On a vraiment établi des recettes. On a fait notre première vente et dégustation auprès d'un public lambda qui a pu nous donner son retour. Et on est en train d'élaborer les plans de notre labo, donc c'est rapide.
Et quand le labo de Transfo sera fonctionnel, vous ferez appel à des petites mains pour vous aider ?
Donc la popoterie a une dimension humaine et elle va pouvoir fonctionner aussi grâce au soutien de bénévoles qui vont non seulement participer à du glanage avec nous, et ça c'est un service énorme auprès de certains producteurs locaux qui peuvent pas ramasser des merveilleux fruits ou légumes, parce que ça leur coûte des fois trop cher. Donc il y aura à un moment donné un appel à bénévoles pour venir nous soutenir pour ce qui est du glanage, et je remercie d'avance tous ceux qui répondront à l'appel.
Ben merci Quentin pour cette rencontre avec Svetlana Vermonet de la Popoterie. Donc deux belles initiatives, hein, le bal de bocal, Jérémy Tanfin et la Popoterie ici à Aubenas. Ça nous laisse...
De quoi se régaler tout l'hiver.
De quoi se régaler tout l'hiver. Donc j'ai noté que tous les deux proposent une ouverture ou un agrandissement pour le printemps 2023.
Et oui, bon appétit.
Voilà, bon appétit, merci bien sûr. C'est tout pour aujourd'hui, pour l'onde curieuse. Mais ce n'est pas tout sur fréquence 7, sur les ondes de fréquence 7, puisque à 15h vous retrouvez le Telex. Donc je rappelle, le Telex, vous pouvez déposer vos annonces au 04 75 93 30 25.
Ensuite, à 17h, on retrouvera la rediffusion de cette émission, L'Onde Curieuse, donc au sujet des conserveries de Sud-Ardèche.
À 18h, Polémix et la voix off, donc c'est une rediffusion de l'émission de décembre. Au secours, épisode 7 avec Clément de la Rabouillance.
Suite du programme, à 20h, on part sur le rock avec l'émission de Salut à toi, une émission spéciale aujourd'hui, puisque vous trouverez trois interviews pour le prix d'une, Tagada Jones, Gogol Premier et Revox, à ne pas manquer.
Oh ouais, ça fait rêver. Et on termine à 21h avec Metal Zone, et là aussi une interview de Loud Blast.
Merci à toutes et à tous pour votre fidélité à notre antenne. Merci beaucoup Sylvain à la technique, comme d'habitude. Et
merci Quentin.
Et Sophie.
À bientôt.